Le journal de l'économie avec François Geffrier.
Il est 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, l'explosion du budget des futurs nouveaux réacteurs EPR français, les défis de la Chine pour faire redémarrer son économie, et puis les TGV italiens en France, les flèches rouges n'ont pas vraiment atteint leur cible. À croire qu'on ne peut jamais faire confiance au prix annoncé avant le début d'un chantier, qui plus est un chantier d'infrastructure, qui plus est dans le nucléaire. Éric Mauban, la facture finale des 6 futurs réacteurs EPR2, qui pour l'instant n'existent même pas à l'état de plan, vient d'augmenter de 30%.
Ouais, 67,4 milliards d'euros, c'est 30% de plus que le coût estimé il y a 3 ans. La note comprend les coûts d'investissement pour la réalisation des études d'ingénierie, les contrats de fabrication des équipements et de construction sur le site, les provisions pour risque, les frais de mise en service, les pièces de rechange et même les charges de long terme pour le démantèlement de ces centrales. Cette révision du coût de ce projet est liée à la décision d'EDF de prendre 9 mois supplémentaires pour finaliser les plans de ces réacteurs EPR. Mais c'est surtout la hausse des coûts de construction qui gonfle le budget prévisionnel, tout comme les provisions pour risque et aléas qui ont été majorées de 5 milliards d'euros.
Pour les spécialistes du secteur, il s'agit, avec cette annonce, d'une demi-surprise.
Effectivement, en 2022, à Belfort, Emmanuel Macron avait annoncé un grand plan de relance du nucléaire en France avec la construction de 6 EPR. Peu de détails avaient alors été fournis sur le financement de ce projet dont le coût prévisionnel affiché ignorait alors certains paramètres comme les coûts liés à la maîtrise d'ouvrage ou à l'acquisition de terrain. D'ailleurs, il reste encore difficile de se faire une idée précise du coût de ces chantiers. EDF espère beaucoup clé cette année le plan de son nouveau réacteur. Le groupe promet par ailleurs de tout faire pour réaliser des économies. Un nouveau point d'étape sera effectué à la fin de l'année afin de se faire une idée plus précise du budget final qui reste aujourd'hui très incertain.
Éric Mauban en direct, information exclusive du journal Les Échos donc. Le chiffre ferait rêver n'importe quel gouvernement européen, mais pour la Chine, c'est quasiment l'humiliation. 5% de croissance en 2024, voilà l'objectif annoncé cette nuit par le Premier ministre chinois à l'occasion de l'Assemblée annuelle du Parlement. 5% après 5,2% de croissance en 2023, déjà année ultra faible au regard de la trajectoire économique de la Chine depuis des décennies. Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes en Chine avoisine les 20%. La consommation est toujours convalescente, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis le Covid. Le secteur immobilier est totalement effondré. Alors pour qu'elle redémarre vraiment, la Chine va devoir s'adapter, Éric Kioche.
Pour Pékin, le temps n'est plus au sprint et au record de croissance, mais à une course de fond. La Chine n'a pas le choix, elle doit adapter son économie aux transitions qu'elle subit, explique le président d'Asia Centre, Jean-François Di Meglio.
La Chine est en transition avec une population qui a cessé de croître, un ratio entre les personnes actives et les personnes dépendantes, de plus en plus défavorable. Et puis la deuxième transition, c'est un arrêt de cette intégration à un concert commercial du monde.
Un mouvement favorisé par la guerre commerciale avec les États-Unis, ce qui pousse Pékin à se recentrer sur l'Asie-Pacifique, mais aussi sur son marché domestique.
La préoccupation principale, c'est effectivement d'avoir une société stable, de recréer l'harmonie qui a été un peu rompue au moment du Covid et relancer la consommation.
Afin de compenser des exportations en baisse de 4,6% en 2023, la Chine songe également à moins soutenir des secteurs malades, comme l'immobilier, 30% de son PIB, et en favoriser d'autres. Marie-Françoise Renard, économiste spécialiste de la Chine.
La Chine va évidemment miser sur d'autres secteurs comme les énergies nouvelles, les panneaux solaires, les véhicules électriques, les pompes à chaleur, les technologies bas carbone.
Des secteurs d'avenir, futurs moteurs de croissance à développer. Il ne pèse pour l'instant que 11% de son PIB.
Éric Kioche, autre annonce, celle du budget militaire de la Chine qui va grimper de 7% en 2024 pour atteindre 231 milliards de dollars. Cela reste 3 fois inférieur au budget du Pentagone américain. Les marchés financiers, après son record d'hier, le Nikkei reste totalement stable ce matin au Japon, à Tokyo, à 40 090 points. Hier soir, le Dow Jones a légèrement reculé d'un quart de pourcent. Le Nasdaq a reculé également, moins 0,41%. Le CAC 40 a progressé de 0,28% à 7 956 points. En ce moment, l'euro vaut 1,0850 et le baril de Brent reste à 82,50 $. Une amende de plus d'1,8 milliard d'euros pour abus de position dominante. La sanction infligée par la Commission européenne à Apple marque les esprits. Il s'agit de pratiques anticoncurrentielles relevées sur le marché de les applications de diffusion de musique en streaming. Très lourde sanction, quasiment 4 fois plus élevée que prévu. Les géants américains que sont les GAFAM ont plusieurs fois été sanctionnés par Bruxelles. Des mesures qui s'avèrent toutefois peu dissuasives, selon maître Bernard Lamont, qui est avocat spécialiste en droit du numérique au sein du cabinet Nouveau Monde Avocat.
D'abord parce que culturellement, la vision du droit de la concurrence est une vision qui est différente entre les États-Unis et l'Europe. C'est une appréciation qui est probablement plus libérale. Deuxième chose, c'est que Apple a déjà annoncé son intention de faire appel et la procédure va pouvoir encore durer de nombreuses années. Donc, c'est une bataille à long terme et le temps est plutôt à leur maîtrise à eux parce que d'ici à ce que la Cour de justice de l'Union européenne tranche définitivement, il se sera écoulé de nombreuses années.
La Commission européenne qui avance sur le sujet des emballages plastiques qui vont devoir, dont le volume va devoir baisser dans les années qui viennent, moins 5% d'ici 2030. Moins 15% d'ici 2040. Les contenants plastiques à usage unique seront interdits en 2030 dans les cafés et restaurants pour les aliments consommés sur place. Trenitalia ouvre ce matin sa billetterie pour les vacances d'été en France. La compagnie italienne est la première à avoir lancé ses TGV, les flèches rouges, les Frecciarossa, sur le marché français pour relier Paris à Milan en passant par Lyon. 2 ans plus tard, la compagnie ne rentre pas dans ses frais. Trenitalia France n'avance pas de chiffres, mais d'après les économistes des transports, l'opérateur aurait perdu plus de 30 millions d'euros tout de même en 2022. Alors il y a certes eu l'éboulement dans la vallée de la Maurienne en août dernier qui a suspendu les liaisons entre la France et l'Italie, privant Trenitalia de 500 000 clients d'après ses propres estimations. Mais au-delà, il y a des difficultés structurelles, des freins qui ralentissent l'ouverture réelle du rail français à la concurrence. Zoé Pallier.
Trenitalia n'est pas rentable, c'est logique et attendu, assume la compagnie. Dans tous les pays, après une ouverture à la concurrence, les nouveaux acteurs perdent de l'argent pendant 5 à 10 ans, explique Patricia Perenes, spécialiste du transport ferroviaire au sein du cabinet Transmission.
Trenitalia, ils avaient déjà du matériel roulant, donc ils n'ont pas eu besoin d'en acheter, mais il y avait quand même l'adaptation de ce matériel pour que les trains puissent circuler en France, la formation du personnel et le fait que les voyageurs ne connaissent pas l'offre. Du coup, il faut faire des prix compétitifs pour les attirer.
Sur la ligne Paris-Lyon, Trenitalia vend d'ailleurs des billets moitié moins cher que pour les TGV Inouï, mais l'écart pourrait se resserrer car l'opérateur italien paye des droits de péage à SNCF Réseau et ses tarifs vont augmenter. L'autre défi, c'est celui de la clientèle, précise Florent Laroche, économiste des transports à l'Université Lyon 2.
Trenitalia, avec ses 5 allers-retours, c'est un petit peu compliqué de proposer suffisamment d'horaires pour capter la clientèle professionnelle. On pourrait se dire ils peuvent se mettre sur la clientèle loisir. Le problème là, c'est qu'ils se retrouvent face à Ouigo qui, quoi qu'il arrive, reste beaucoup moins cher. Donc, Trenitalia se retrouve un petit peu entre ces deux marchés où la SNCF est très performante.
Mais ces obstacles ne découragent pas les compagnies. L'espagnol Renfe arrive à son tour sur la ligne Paris-Lyon et le français Kevin Speed va investir 1 milliard d'euros pour relier Paris à Lille et Strasbourg d'ici 2028.
Zoé Pallier, un rapport un peu décourageant sur les inégalités femmes-hommes dans le monde du travail et sur la planète entière. La Banque mondiale le dit, ces écarts restent forts, voire augmentent. Quelles sont les mesures qui permettraient de les réduire? Rebecca Amselem est économiste, fondatrice de la newsletter hebdomadaire Les Glorieuses qui œuvre pour l'égalité salariale femmes-hommes.
On préconise 4 mesures qui ont fait leur preuve dans les pays où ça a fonctionné. Donc la transparence des salaires. La transparence des salaires d'ailleurs qui devient, grâce à une directive européenne, obligatoire à partir de 2026 en France. Il y a également une 2e mesure, à savoir augmenter les salaires des métiers dits féminisés, c'est-à-dire les métiers où les femmes sont beaucoup plus nombreuses. Par exemple, le corps infirmier ou encore le corps professoral. La 3e mesure qu'il faut passer, c'est un congé parental équivalent pour les deux parents. Si en début de carrière, au sein d'un même secteur, il n'y a pas énormément d'écart de salaire, en revanche, ça se creuse considérablement au moment du premier enfant. Et surtout, c'est un écart qui ne se rattrape absolument pas au cours de la carrière professionnelle. Et enfin, la 3e mesure, c'est conditionner l'accès au marché public au respect de l'égalité salariale au sein d'une entreprise.
Rebecca Amselem. Quelque chose d'historique dans la journée d'hier avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est la une journal de 7 heures de Radio Classique. C'est dans un instant.